Écoutons la parole de Dieu. Je vous invite à suivre la lecture d'un chapitre de l'Écriture sainte, le chapitre 22 du livre de Josué. Dans l'Ancien Testament, nous lisons dans le livre de Josué, tout chapitre, le chapitre 22. Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, « Vous avez observé tout ce que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a ordonné, et vous m'avez écouté en tout ce que je vous ai ordonné. Pendant bien des jours, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas abandonné vos frères, et vous avez observé scrupuleusement le commandement du Seigneur votre Dieu. » Maintenant que le Seigneur, votre Dieu, a accordé le repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez à vos tentes, dans le pays qui est votre propriété, celui que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a donné en Transjordanie. Seulement, veillez bien à mettre en pratique le commandement et la loi que Moïse, serviteur du Seigneur, a institué pour vous. Aimez le Seigneur, votre Dieu. Suivez toutes ses voies, observez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué les bénit et les renvoya. Ils s'en allèrent à leur tente. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé un patrimoine au Bashan et Josué donna à l'autre demi-tribu un patrimoine auprès de ses frères au-delà du Jourdain à l'ouest. Lorsque Josué les renvoya à leur tente, il les bénit et leur dit « Retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux très nombreux, avec de l'argent, de l'or, du bronze, du fer et des vêtements en très grande quantité. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent. Ils quittèrent les Israélites à Silo et Canaan, pour aller au Galaad, le pays qu'ils avaient reçu en propriété sur l'ordre que le Seigneur avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Quand ils furent arrivés dans les districts du Jourdain qui appartiennent à Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé bâtirent là un autel, A-U-T-E-L, un autel près du Jourdain, un autel imposant. Les Israélites apprirent que les fils de Ruben, les fils de Gad de la tribu, demi-tribu de Manassé avaient bâti cet autel face à Canaan dans les districts du Jourdain, de l'autre côté par rapport aux Israélites. Lorsque les Israélites eurent appris cela, toute la communauté des Israélites se rassembla à Silo pour lancer contre eux une expédition militaire. Les Israélites envoyèrent Phinéas, fils d'Éléazar le prêtre, auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au Galaad, et avec lui 10 princes, un prince par famille pour chacune des tribus d'Israël. Chacun était chef de sa famille parmi les fratries d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au Galaad, et ils leur dirent, « Ainsi parle toute la communauté du Seigneur. Que signifie ce sacrilège que vous avez commis envers le Dieu d'Israël? Vous vous êtes détourné aujourd'hui du Seigneur en vous bâtissant un autel. Vous vous êtes rebellé aujourd'hui contre le Seigneur. La faute de Péor ne nous suffit-elle pas? Alors que nous n'en sommes pas encore purifiés jusqu'à ce jour, malgré le fléau qui a frappé la communauté du Seigneur? Et vous, vous vous détournez aujourd'hui du Seigneur? Si vous vous rebellez aujourd'hui contre le Seigneur, demain la colère s'abattra sur toute la communauté d'Israël. Si vraiment le pays qui est votre propriété est impur, passez donc dans le pays qui est la propriété du Seigneur, là où se trouve la demeure du Seigneur, et ayez votre propriété au milieu de nous. Mais ne vous rebellez pas contre le Seigneur, et ne vous rebellez pas non plus contre nous, en bâtissant pour vous un autel, en plus de l'autel du Seigneur, notre Dieu. Lorsque Achan, fils de Zéra, commit un sacrilège en matière d'anathème, c'est sur toute la communauté d'Israël que la colère s'abattit. il ne fut pas le seul homme à périr dans sa faute. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent au chef des fratries d'Israël. Dieu, le Seigneur, Dieu, le Seigneur, lui le sait et Israël le saura. Si c'est par rébellion que nous avons agi, si c'est pour commettre un sacrilège envers le Seigneur, ne nous sauve pas en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner du Seigneur, si c'est pour y offrir des holocaustes et des offrandes végétales, si c'est pour y offrir des sacrifices de paix, que le Seigneur en demande compte. Non, nous avons fait cela parce que nous étions inquiets à la pensée que demain, vos fils pourraient dire à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et le Seigneur, le Dieu d'Israël ? Le Seigneur a mis le Jourdain pour frontière entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad, vous n'avez aucune part au Seigneur. Et à cause de vos fils, nos fils cesseraient de craindre le Seigneur. Alors nous nous sommes dit, mettons-nous à l'œuvre pour bâtir un autel, non pas pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous, ainsi qu'entre nos descendants après nous, pour que nous accomplissions bien le service du Seigneur devant lui par nos holocaustes, nos sacrifices de paix, afin que demain vos fils ne disent pas à nos fils « Vous n'avez aucune part au Seigneur ». Nous nous sommes dit, s'ils nous disent cela à nous ou à nos descendants, nous répondrons « Regardez le modèle de l'autel du Seigneur qu'ont fait nos pères, non pas pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. » Jamais nous ne nous rebellerions contre le Seigneur. Pour rien au monde, nous nous détournerions aujourd'hui du Seigneur en bâtissant un autel pour des holocaustes, des offrandes végétales et des sacrifices, en plus de l'autel du Seigneur, notre Dieu, celui qui est devant sa demeure. Quand Phinéas le prêtre, les princes de la communauté et les chefs des fratries d'Israël qui étaient avec lui, entendirent ce que disaient les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, cela leur plut. Phinéas, fils d'Éléazar le prêtre, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad, aux fils de Manassé, « Nous savons aujourd'hui que le Seigneur est au milieu de nous, puisque vous n'avez pas commis ce sacrilège envers le Seigneur. Ainsi vous nous avez délivré les Israélites de la main du Seigneur. » Phinéas, fils d'Éléazar le prêtre, et les princes partirent de chez les fils de Ruben, de chez les fils de Gad et du Galaad, pour revenir en Canaan auprès des Israélites, auquel ils firent un rapport. Le rapport plut aux Israélites, ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de lancer contre eux une expédition militaire pour détruire le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad donnèrent un nom à l'autel en disant « Il est témoin entre nous que le Seigneur est Dieu. » Jusqu'ici, notre lecture. Toute écriture, écrit l'apôtre Paul à Timothée, ou toute portion de l'écriture, étant inspirée de Dieu, est utile spirituellement. Elle contribue à former l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Et les histoires de l'Ancien Testament, écrit-il aux Corinthiens, ont été écrites pour nous servir d'exemple. Donc le chapitre de Josué, que nous venons de lire, a été écrit pour nous, pour que nous en tirions des leçons. Je confesse que je l'ai lu bien souvent au cours de ma vie, elle a été assez longue pour cela, sans lui prêter beaucoup d'attention, mais récemment il m'a frappé et j'ai été conduit à le proposer à votre attention ce matin. Il nous parle d'un conflit apaisé, d'un apaisement que je crois exemplaire. Qui d'entre nous peut se désintéresser de l'action des conflits et de leurs solutions possibles? Qui de nous est totalement épargné par les tensions et les animosités qui dressent les humains contre les autres? De quoi nous parlent nos médias du matin au soir? On pourrait dire des conflits qu'ils sont aux relations interhumaines ce que les vagues sont à la mer. et le chapitre de la parole de Dieu que nous venons de lire nous instruit sur leur naissance possible et sur leur évitement souhaitable. Par quelle voie nous allons essayer de le considérer ensemble? Mais il faut d'abord que je replace l'épisode dont nous avons lu le récit dans son contexte, que je vous parle de la situation. Les termes du chapitre la suggèrent déjà de manière assez nette, mais vous n'avez peut-être pas tout à l'esprit, et il est bon que je vous rafraîchisse un peu la mémoire. Sous la conduite de Josué, successeur de Moïse, le peuple d'Israël a conquis la terre que Dieu avait promise à ses ancêtres, à Abraham, et puis ensuite à Isaac et à Jacob, la terre de Canaan. Les Israélites, les descendants de Jacob, qui s'étaient multipliés par dizaines de milliers, avaient été asservis par les Égyptiens. Initialement, ils étaient descendus en Égypte pour échapper à la famine, et ils avaient été bien accueillis, mais progressivement, ils avaient été utilisés comme un peuple d'esclaves pour la corvée des constructions par les Égyptiens. Ils avaient gémi sous le joug et Dieu avait suscité Moïse pour les délivrer. Sous la conduite de Moïse, avec de grands prodiges que le Seigneur avait accomplis, ils avaient été libérés d'Égypte et ensuite avaient nomadisé une quarantaine d'années dans le désert du Sinaï. Dieu avait dit, pas tout de suite, à cause de leur manque de foi, pas tout de suite, la conquête du pays promis. Et à la mort de Moïse, Josué a pris la tête de ce peuple et il a accompli, en plusieurs dizaines d'années, la conquête d'une majeure part du pays de Canaan. Il ne faut pas que nous soyons dans l'illusion, ils n'ont pas conquis la bande du littoral, les zones les plus faciles à cultiver. Ils étaient inférieurs en technique militaire. C'est le pays moyennement montagneux qu'ils ont pu conquérir grâce à des prodiges que le Seigneur a accomplis en leur faveur. Par exemple, pour Jéricho, les murailles sont tombées sans doute parce que Dieu a suscité un tremblement de terre, juste à ce bon moment, conformément aux dispositions qu'il avait dit à Josué de prendre. Ils avaient conquis donc le pays montagneux et jusque dans le sud, jusqu'au Negev et jusque dans le nord en Galilée, avec certaines villes qui étaient quand même restées indépendantes de leur pouvoir. Par exemple, la ville de Jébus, alias Salem, alias Jérusalem. C'est plus tard que David va pouvoir prendre cette ville et en faire sa capitale. Il s'était donc installé dans le pays sous la conduite de Josué grâce à divers prodiges. Mais auparavant, Moïse encore vivant, deux tribus et demie avaient déjà reçu leur territoire à l'est du Jourdain. Le pays de Canaan est situé à l'ouest du Jourdain, où se trouve l'État d'Israël d'aujourd'hui, et où se trouve aussi la Cisjordanie, territoire occupé, comme on les appelle aujourd'hui encore, parce qu'ils ne font pas partie, en principe, d'Israël, de l'État d'Israël moderne, mais sont occupés par l'armée. Et de l'autre côté, appartenant au royaume de Jordanie, comme nous l'appelons, il y a la Transjordanie, capitale Amman, qui est encore le nom que nous avons dans la Bible, Ammon, les Ammonites, c'est Amman, à l'est du Jourdain, la Transjordanie. Dieu avait dépossédé les rois des petits royaumes qui s'y trouvaient, et Moïse avait installé deux tribus, la tribu de Ruben et la tribu de Gad, et une demi-tribu, la tribu de Manassé, qui se trouvait en quelque sorte de cette façon à cheval sur le Jourdain. Après la conquête de ce territoire de Transjordanie, Josué avait dit aux guerriers des tribus de Ruben, de Gad et de Manassé, attention, vous ne pouvez pas nous lâcher maintenant, vous avez votre territoire, mais il nous faut nous aider à conquérir le reste. Et ils avaient en effet obtempéré, ils avaient combattu avec les autres Israélites à l'ouest, et le récit que nous avons lu commence au moment où le gros de cette conquête est terminé. Josué leur dit, voilà, vous avez bien suivi les ordres que je vous avais donnés et qui correspondaient à ceux de Moïse. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez retourner à vos tentes. C'est souvent dans de grandes tentes, à la manière des Bédouins, hein, qu'ils habitaient encore à cette époque. Vous pouvez retourner chez vous en Transjordanie. Et c'est ce qu'ils ont fait avec les richesses que leur conquête leur avait permis de rassembler. Voilà la situation au début de notre chapitre. Il nous est rapporté ensuite qu'ils ont construit, en retournant chez eux, à la frontière, c'est-à-dire au Jourdain, un grand autel. Un autel, hein, c'est un énorme cube de maçonnerie, enfin plus ou moins gros, là il était énorme, un autel, et normalement, un cube de maçonnerie sur lequel on offre les holocaustes, les sacrifices, on met les victimes égorgées. Et c'est comme ça qu'étaient les autels de cette époque, dans divers peuples, mais aussi pour Israël. Un gros cube avec des cornes aux quatre coins pour symboliser la force du sacrifice. Et ils construisent donc un énorme, grandiose, imposant autel à la frontière entre l'ouest, où se trouvaient les 9 tribus et demie, et puis l'est, Transjordanie, où était leur territoire. Et le rapport en vient aux oreilles des responsables d'Israël, des 9 tribus et demie de l'ouest, qui avaient pour ville principal de ralliement pour eux, Silo, où se trouvait le tabernacle, la tente du Seigneur avec l'arche. Ils reçoivent cette information. Voilà que les Rubénites et les Gadites ont construit un autel à cet endroit. Et ils se rendent compte que c'est une menace, en tout cas c'est ce qu'ils croient, une menace terrible. Il y avait une double fragilité pour l'ensemble de ce peuple d'Israël. Ce peuple était resté assez uni, malgré des moments difficiles, sous la direction de Moïse et sous la direction de Josué, parce que c'était des chefs charismatiques, et Dieu avait fait par eux de nombreux miracles. Mais le peuple n'avait pas l'habitude d'une unité très forte. Les liens n'étaient pas, malgré les liens de sang, n'étaient pas très très solides entre eux. Et le livre suivant dans la Bible, le livre des Juges, nous montre très bien que livrés à eux-mêmes, ils ont tendu à se disperser, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est la formule qui revient dans le livre des Juges, la période des Juges, c'est celle qui suit Josué. Donc, il y avait une fragilité quant à l'union des 12 tribus. Et puis il y avait une fragilité permanente quant au culte du Seigneur, l'Éternel, Yahweh. Vous savez qu'on rend de façon diverse ce nom qui se prononçait sans doute à l'origine Yahweh. De crainte de le profaner, les Juifs l'ont remplacé par Seigneur. C'est ce qu'on a dans les citations du Nouveau Testament et dans certaines traductions comme celle que j'ai lue. Mais d'autres, en français, ont remplacé par éternel. Et donc, le culte de l'éternel, de Yahweh, du Seigneur, était le culte du Dieu unique, le seul qui ne soit pas une idole. Mais constamment la tentation dans ce Moyen-Orient, où l'habitude était de servir plusieurs dieux, constamment la tentation a été, pour les Israélites, d'associer d'autres dieux, d'offrir des sacrifices à d'autres, ou, comme on a dit parfois, de baaliser le culte de l'Éternel, c'est-à-dire de le traiter comme un Baal, d'emprunter des traits de la religion des Baals, les dieux de la nature avoisinants, et de les incorporer au culte de l'Éternel, de faire un mélange. Les prophètes n'ont cessé de lutter contre cette tendance et tentation, Et pour lutter contre cette tentation, Moïse avait, de la part de Dieu, au chapitre 12 du Deutéronome, indiqué très clairement qu'il ne fallait qu'un seul autel, un seul lieu pour offrir les sacrifices. Cette centralisation était indispensable pour maintenir à la fois l'unité du peuple et la pureté du culte. Par la suite, justement, les prophètes n'ont cessé de prêcher contre ces autels construits sur les hauts lieux, sur les collines. C'était la tentation. Alors quand les responsables d'Israël à Silo entendent que les Rubénites, etc., ont construit un autel qui n'était pas celui de Silo, c'était un peu au sud de Jéricho sans doute, pratiquement à la frontière, et ils disent « ça y est ». Ils vont à la fois diviser le peuple, c'est un signe très clair de revendication d'autonomie de leur part, ils veulent être de leur propre côté, et ils marquent cette frontière pour nous séparer, et ils veulent y offrir des sacrifices s'ils construisent un autel. Donc, ils vont abâtardir le culte du Seigneur, ils abandonnent le Seigneur, ils contreviennent à l'ordre qu'il a très clairement donné au chapitre 12 du Deutéronome. Vous voyez comment la crise naît entre cette partie du peuple qui était à l'est et l'autre partie du peuple plus nombreuse qui était à l'ouest. Et les responsables à Silo, recevant ce rapport et s'inquiétant très fort, parce que c'était les lignes de faille auxquelles correspondait ce que l'autel semblait signifier, ils décident carrément de lancer une expédition militaire. Et ils sont prêts à la guerre civile pour empêcher une division de la nation et qu'une partie de la nation se détourne du chemin de l'Éternel. Vous voyez, telle est la crise qui éclate à ce moment-là. Heureusement, ils envoient quand même une délégation avant de lancer l'attaque contre leurs frères, les tribus de Ruben, de Gad et de Manassé. Ils envoient quand même une représentation très autorisée de leur propre tribu, des princes correspondant à chacune des 10, et puis Phinéas, le fils du grand prêtre, lui qui, lors de l'affaire de Baal-Péor, qui nous est rapportée au chapitre 25 du livre des Nombres, avait fait preuve d'un zèle exemplaire, avait eu le courage d'une initiative forte. Ils envoient ce Phinéas, qui était un homme insoupçonnable, pas de compromis avec lui, on pouvait en être sûr. Il les envoie. Et nous avons donc le discours, nous l'avons lu il y a quelques instants, que ces anciens des 9 tribus et demie et Phinéas tiennent aux Rubénites. Ils leur reprochent vertement d'avoir abandonné le Seigneur, de vouloir se séparer et en suivant leur propre voie quant au culte. Et leur motif est très intéressant à relever. Ils évoquent tout spécialement la colère de Dieu. Ils disent, est-ce que c'est pas assez que nous ayons tant souffert du courroux de la colère de Dieu lors de l'affaire de Baal-Péor, précisément. Dans cette affaire-là, les enfants d'Israël avaient été entraînés par les filles madianites à des orgies idolâtriques. Et un fléau avait frappé le peuple. La colère de Dieu s'était enflammée. Et puis il y a eu l'exemple d'Acan. Acan qui avait enfreint la règle de l'interdit ou anathème, qui avait pris des choses qui auraient dû être consacrées à l'Éternel pour les cacher, pour les garder pour lui. Et de nouveau, ça avait été la défaite pour le peuple entier. Et il se rappelle ces exemples de la colère de Dieu, en disant, mais si nous vous laissons faire, la colère de Dieu va s'abattre sur nous tous. Alors il me semble intéressant de réfléchir un instant à la leçon pour nous en cette affaire. Les risques de division et de corruption du vrai service du Seigneur, ils sont là pour nous aussi. Nous ne pouvons pas ignorer que ces risques affectent toujours le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Combien de divisions si tristes, si tristes. Il y a des divisions parfois nécessaires à cause précisément des déviations par rapport à la loi de Dieu, mais il y a d'autres divisions qui interviennent simplement parce que l'orgueil, l'ambition humaine s'en mêlent. Donc, ces craintes qu'avaient les anciens des 9 tribus et demie quant à la division qui menaçait et la corruption du culte, nous pouvons les éprouver aussi. Et nous mettre dans une attitude de vigilance qui puisse correspondre à la leur. Mais ce qu'ils évoquent principalement, je l'ai dit, hein, mais vous pouvez encore le vérifier si vous avez votre Bible ouverte, c'est la colère de Dieu. Est-ce que ce motif doit aussi nous inspirer? La crainte de la colère de Dieu. Nous n'en parlons pas si souvent, il faut le reconnaître. C'est quelque chose que nos contemporains sont si peu prêts à admettre. Un Dieu commode, oui, mais un Dieu en colère. Je crois qu'il faut d'abord bien comprendre ce dont il s'agit lorsque la Bible parle de la colère de Dieu. Ce n'est en aucune façon un emportement passionnel qui se produirait par caprice et qui serait animé par une agressivité méchante. Absolument pas. Si nous avons une telle idée dans l'esprit, nous sommes totalement à côté de la plaque, comme on dit. Nous ne comprenons en aucune façon ce qui est en cause lorsqu'il est question de la colère de Dieu. La colère des hommes est comme ça, mais la Bible dit la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de Dieu, c'est la colère de son amour, de sa justice aussi, de sa sainteté, mais de son amour, pour comprendre un petit peu ce à quoi ça peut correspondre chez lui. Pensez à la rage qui vous prend, que si votre ado que vous aimez, vous le voyez faire des choix complètement destructeurs, se mettre à fréquenter des gens qui l'entraîneront dans la drogue, qui, votre colère, votre indignation brûle, parce que vous aimez la personne qui se détruit de cette façon. C'est de cette façon que Dieu est en colère lorsqu'il voit les hommes qu'il a faits et qu'il aime se détruire par folie, par stupidité, par méchanceté, eux-mêmes, salir, déformer l'image de Dieu qu'il a faite en eux. C'est une indignation sainte qui procède de son amour même que la colère de Dieu. Et ceux qui ne veulent pas entendre parler de la colère de Dieu ne savent rien de son amour. Ils ne le connaissent pas comme le Dieu saint et juste, le seul qui soit bon de manière absolue. Les idées de Dieu qui se sépare totalement de l'idée de sa colère et qui circule autour de nous, sont des idoles non pas de métal, mais des idoles de mental, comme quelqu'un a dit. Des idoles qui sont de fausses imaginations. Telle est l'imagination que beaucoup adoptent autour de nous. Il y a une parole que je trouve parmi les plus impies qui aient jamais été prononcées, les plus horribles pour celui qui connaît le vrai Dieu. C'est le poète allemand Heinrich Heine qui a dit « Dieu me pardonnera, c'est son métier ». Une telle façon de fouler aux pieds la merveille d'amour qu'est le pardon de Dieu et qui a coûté sa souffrance à Jésus. Vous voyez, mais rien de plus blasphématoire. une erreur radicale, totale, quant au sens de la colère de Dieu. Alors nous faisons bien, nous aussi, de redouter les conséquences funestes de la désobéissance en pensant à la colère de Dieu, en pensant à la sainte indignation de son amour. Mais comment la crise alors s'est-elle apaisée, puisque je vous dis que le conflit est un conflit qui a trouvé solution? Il s'est révélé que tout reposait sur un malentendu. En tout cas, en ce qui concerne les principaux des responsables. Parce qu'on peut toujours imaginer que parmi les Rubénites et parmi les autres, il y avait des gens qui avaient moins bien compris les choses. Mais avec les responsables au moins, les choses s'éclaircissent parfaitement. Mais non, nous ne voulions pas du tout abandonner le Seigneur. Nous ne voulions pas nous séparer de vous. C'était un autel pas pour des sacrifices. Non, comme un témoin. Et cela, à cause de nos enfants, pour qu'il n'y ait pas justement de séparation. Ce que les responsables d'Israël avaient pris comme un signe de séparatisme, les autres l'avaient conçu comme un trait d'union. Cet autel, ils le voulaient, un trait d'union entre l'Est et l'Ouest. C'était sur le malentendu que le conflit était fondé. Eh bien, ça arrive aussi dans les conflits que nous connaissons à tous les échelons, depuis le couple jusqu'à la géopolitique. Et oui, les malentendus jouent un rôle non négligeable et nous avons à nous en souvenir aussi. Il y a des malentendus parce qu'on ne s'explique pas. Les gens de Ruben et de Gad auraient bien fait de prévenir les autres avant. Il y a des codes différents, alors pas tellement dans le cas des Israélites, mais très souvent dans les conflits qui dressent les humains les uns contre les autres. Les mêmes mots n'ont pas le même sens. Une attitude que certains prendront pour de la froideur, c'est pour les autres de la discrétion. Ce que les autres prendront pour de la sollicitude, les prendront pour du harcèlement, etc. Le malentendu qui crée le conflit. Un conflit qui, je crois, joue un rôle dans les difficultés même que connaît notre pays, c'est celui de la notion de respect. Pour nous et notre culture, je dirais, qui a été marquée par la Bible, le respect, c'est une vertu des forts. Respecter le plus faible, voilà de la noblesse. Le respect est donc une vertu de force. Alors que, semble-t-il, dans la culture de certaines cités au pluriel, comme on dit, c'est au contraire la marque du faible, c'est la soumission du faible au fort. Le respect, c'est s'aplatir. Et donc, malentendu sur ce qu'on appelle même respect. Le malentendu joue un rôle important. Alors, le malentendu se dissipe quand les protagonistes dans notre histoire se parlent, se disent clairement quelles sont les intentions. Et il y a là un élément qui me paraît très, très utile à noter. Les responsables d'Israël ont accepté les explications des Rubénites. Souvent, les conflits viennent, même quand de bonnes intentions ont été explicitées, parce que ceux qui ont commencé des préparatifs de guerre n'acceptent pas les explications des autres. Ils se butent, ils s'entêtent, ils ont leur image des autres et ils ne veulent pas en revenir. Il y a là de l'orgueil, il y a là une simple rigidité, et je pense que c'est une leçon pour nous très importante. Les malentendus, il peut y en avoir, il y en a toujours à quelques degrés, mais ce qui est souhaitable, ce qui permet la solution des conflits, c'est cette bienveillance qui acceptera que l'autre définisse lui-même ses intentions en l'affaire. Qu'il puisse dire que ce qu'il visait en vérité et selon les propres codes qu'il met en œuvre. Le conflit s'est apaisé de manière exemplaire entre les Israélites des 9 tribus et demie et ceux des 2 tribus et demie de l'Est. Et l'autel est resté là. Je conclus en soulignant l'importance de cette permanence de l'autel comme témoin. Témoin entre ceux de l'Ouest et ceux de l'Est par rapport à ce qui s'était passé et par rapport à l'engagement qu'ils avaient pris. Nous avons besoin de témoins, de symboles et monuments qui rappellent les choses parce que nous sommes tellement oublieux. Incroyable ce que nous pouvons oublier de ce que le Seigneur nous a montré lors d'un épisode plus ancien. Et aussi parce que il y a la transmission aux descendants. Les gens de Ruben, là, disent, oui, mais nos descendants, vous voyez, il faut penser aussi à cette suite. Et les monuments qui se transmettent de génération en génération sont, je crois, fort utiles pour préserver les liens et résoudre les conflits. Nous pouvons parler d'un monument pour notre bâtiment du tabernacle lui-même, qui est un monument de la fidélité de Dieu et de la générosité de nos frères et sœurs, car le tabernacle a été construit et reconstruit avec l'aide de beaucoup de frères et sœurs ailleurs dans le monde. Cette chair même de laquelle je vous prêche, si je me rappelle bien, c'est un cadeau de l'Église réformée évangélique d'Alès, dans le département du Gard. Après que le tabernacle avait tellement souffert, cette chair a été donnée par des frères et sœurs d'une telle paroisse. Aujourd'hui, nous n'allons pas célébrer le repas du Seigneur, mais je rappelle que le Seigneur a justement voulu laisser comme un monument, comme un témoin, pour que nous n'oublions pas ce qu'on appelle la Sainte Cène, le repas du Seigneur, ce que certains dans d'autres traditions appellent Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez et buvez ensemble un repas de fête de votre communauté, célébrant votre union, rappelez-vous que le fondement de votre union, comme frères et sœurs, c'est mon sacrifice, c'est ma mort pour vous. Lorsque nous célébrons le repas du Seigneur, comme nous l'avons fait dimanche dernier, et comme nous le ferons sans doute dimanche prochain, Dieu voulant, nous dressons un monument témoin. C'est Dieu qui lui-même est intervenu pour résoudre parfaitement le conflit qui nous opposait à sa sainteté et pour nous permettre à nous aussi, constituant un seul corps, à résoudre sur l'unique autel qu'a été la croix. S'il y avait un seul autel, c'était pour préfigurer qu'il n'y a qu'à la croix que la réconciliation s'opère. C'est pour que nous nous rappelions que sur l'autel de la croix, notre réconciliation les uns avec les autres, l'apaisement des conflits, trouve aussi sa source et la force nécessaire. Amen.